voir un peu de manière différente peut-être certaines notions. Disons que je vais ajouter des choses. Alors, comme j'ai été assez bavarde avant notre pause, là on va avoir 3 quarts d'heure. On va pas forcément regarder tous les textes, mais vous les garderez et puis vous pourrez les lire par vous-même. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ces Védas comportaient un premier livre, une première collection, qui était la collection des hymnes. Ces hymnes qui sont censés avoir été composés après des visions, en quelque sorte, à mi-chemin entre une célébration des dieux qu'on a vus et un récit des actions de ces dieux. Donc il y a à la fois une dimension de dévotion, on fait hommage. Regardez le premier, j'entonne au souverain une haute, une profonde prière, et en même temps on décrit ses actions. Donc ça, ce premier livre du Veda, il s'appelle Rig Veda. Rig, ça veut dire un hymne. Alors, par exemple, ce dieu Varuna, qui est un peu l'équivalent du Zeus grec. Pas tout à fait, mais en partie. On va le célébrer au titre où il crée l'ordre du monde. Et cet ordre du monde, il va être particulièrement défini par la notion de mesure. Regardez à la fin de l'extrait, c'est lui qui, debout dans l'espace, a comme avec une mesure mesuré la terre à l'aide du soleil. Bon, c'est la traduction en sanskrit, c'est plus beau parce qu'il y a des allitérations, mais il y a bien en sanskrit une répétition. Le mot, le nom mesure et le verbe mesurer. Donc, le mode de création de Varuna, c'est imposer une mesure aux choses. Ça va très bien avec l'idée d'ordre ou de dharma. Alors, je vais lire ce premier extrait. Donc, j'entonne au souverain une haute, une profonde prière qui lui agrée à Varuna l'illustre. Lui qui a étiré la terre comme un boucher fait d'une peau pour qu'elle soit un tapis au soleil. Alors là, il y a 2 choses à remarquer. Bon, la première, c'est que ce que fait Varuna, c'est que il crée le monde en développant quelque chose qui est virtuel. Il étire, il donne un espace à chaque chose pour qu'elle puisse exister. C'est comme si on avait un trou noir, enfin je ne suis pas physicienne, je ne comprends rien au trou noir, mais ça ne fait rien, je vais vous dire ce que j'ai compris. À partir du trou noir, quelque chose peut se déployer, peut naître. Bon. Et l'autre chose qui est importante, qui est sous-jacente au texte, comme une métaphore, c'est celle du sacrifice. Lui qui a étiré la terre comme un boucher fait d'une peau, pour qu'elle soit un tapis au soleil. Voilà. Donc, on a derrière toute une symbolique de l'animal dont il reste la peau, parce qu'on a offert la chair, bon, qui serait une symbolique un peu pas très facile à détailler, mais vous sentez un peu l'image. Dans les forêts, il a tendu l'atmosphère. Alors, évidemment, en français, ça ne veut rien dire, il a tendu l'atmosphère. Mais il a donné extension. Vous voyez, Varuna, c'est celui qui fait exister les choses en leur donnant de l'espace et une mesure, c'est-à-dire un certain espace pour se déployer et en même temps, pas plus loin que ça. C'est-à-dire que chaque chose a sa mesure. Donc, dans les forêts, il a tendu l'atmosphère, il a mis la victoire dans les coursiers, il a mis le lait dans les vaches. Dans les cœurs, Varuna a mis l'intelligence, le feu dans les eaux, ça personne ne comprend ce que ça veut dire, au ciel le soleil et le soma sur la montagne. C'est-à-dire qu'il a mis au cœur, enfin, il a mis une quintessence au cœur de chaque réalité. Ça, c'est important parce que c'est sur des choses comme ça que les sages des Upanishads vont s'accrocher après s'appuyer pour dire, mais il y a une dimension intérieure, puisque Varuna, il met l'intelligence, enfin intelligence, faut pas entendre l'intellect hein, purement mental, mais la faculté de compréhension dans l'être humain. Il met le lait dans les vaches. Donc il met une essence intérieure dans chaque réalité. Le soma, c'est une boisson intoxicante qui sert dans certains rites. On a dans le Rig Veda tout un cycle consacré au soma. Et c'est la boisson qui donne des extases et qui donne des visions. Et cette boisson, elle est fabriquée à partir d'un champignon hallucinogène qui poussait, qui pousse peut-être encore, j'en sais rien, sur certains flancs des montagnes himalayennes. Donc, le soma sur la montagne, on va chercher, Varuna a mis le soma sur la montagne, c'est-à-dire il a mis ce champignon qui va permettre de composer cette substance dont je vais vous reparler après. Maintenant, un hymne à Indra. Alors, Indra, c'est un dieu, c'est le dieu de deuxième fonction. C'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de la foudre, donc des orages. C'est le dieu des moussons. Alors, un hymne qui est assez ésotérique, je crois vraiment que pour le premier, vous auriez pu trouver tout seul. Pour le second, il faut quand même que je vous donne des clés. Je vais dire à présent les prouesses d'Indra, celles qu'a faites les premières le dieu porte-foudre. Il tua le dragon, littéralement, on va voir ce que ça veut dire, il perça les eaux, il rompit le flanc des montagnes. Comme des vaches mugissantes, courant droit vers la mer, les eaux ont dévalé. Alors, première chose, c'est que on n'a pas un seul dieu créateur. Vous voyez que Varuna, il crée d'une certaine manière, et on va avoir Indra qui crée le monde d'une autre manière. Donc, il y a l'idée que quelque chose est transversal à ces dieux qui sont différents, c'est quelque chose qui est le propre de la fonction divine, c'est d'être avant le monde et de créer le monde. Mais Indra ne fait pas de la même façon que Varuna, parce que c'est un dieu de deuxième fonction. Il va créer le monde par un combat entre ce qui ne veut pas naître et ce qui veut naître. Donc, le poète dit, je vais dire à présent les prouesses d'Indra, celles qu'a faites les premières, c'est-à-dire au début du monde, le dieu porte-foudre, ça c'est pas compliqué à comprendre. Il tua le dragon, il perça les eaux, il remplit le flanc des montagnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dragon? Alors, en sanskrit, ce dragon, il a un nom qu'on peut traduire en français, ça se dit pas, mais on peut le traduire littéralement par le bloqueur. Ça vient d'un verbe qui veut dire bloquer, empêcher. Ici, le sens, c'est empêcher quelque chose d'exister. Donc ce dragon est une métaphore d'un chaos primordial qui ne permet pas que quelque chose existe, parce que c'est le chaos. Et ici, c'est vu comme, je sais pas, une sorte de dragon énorme, de dragon cosmique, qui retient en lui, retient dans son ventre, les eaux. Les eaux étant le symbole de la vie. Des eaux qui sont pas l'océan, mais qui sont des rivières. Les eaux ont dévalé, dit à la fin le texte. Donc, les rivières, ça commence à un endroit, à la source, et ça descend. Donc, ça a une dynamique. Ce sont des eaux courantes, des eaux qui courent. Elles ont dévalé. Et elles sont le symbole que quelque chose arrive. Le dragon est le symbole du fait que rien ne peut arriver. Il ne peut pas y avoir de création. Et pour que quelque chose existe, il faut l'arracher au chaos. Et Indra est ce dieu violent, ce dieu guerrier, qui arrache la naissance d'un monde au chaos. Donc vous avez Varuna qui regarde les choses de haut, il est debout entre la terre et le ciel, il donne une mesure à chaque chose, c'est le dieu de la justice, c'est le dieu du droit, c'est le dieu de la limite, qui dit voilà, on peut aller ici et jusqu'ici. Et puis vous avez un dieu qui crée en combattant. Il combat contre le chaos et il arrache à ce chaos l'existence d'un monde. Et ce monde, enfin, ce moment d'arrachement est un moment de création et il est symbolisé par le fait que, au lieu que les eaux soient enfermées dans quelque chose qui, le dragon, c'est enfermé dans un réservoir qui les empêche d'avoir leur dynamique, eh bien, au lieu de ça, par l'action d'Indra qui rompt, vous voyez, en fait, il ne perce pas les os, c'est la traduction littérale, on pourrait dire il perce le flanc du dragon, le flanc des montagnes, voilà, peut-être que l'Himalaya est comme un énorme dragon, et on imagine qu'au début du monde, Indra a fait ses failles, a fait ses trous, qui deviennent les sources des rivières. Et alors, comme des vaches mugissantes, alors ça c'est très beau, et il y a un rapport dans le Veda entre l'eau et le lait. L'eau de la rivière, l'eau des rivières, du Gange, de la Narmada, etc., toutes ces rivières, l'eau des rivières et le lait, ce sont des liquides nourriciers. Donc comme des vaches mugissantes, courant droit vers la mer, les eaux ont dévalé. Voilà, vous voyez ce langage qui est un langage de poète, un langage épique, un langage mythologique, et qu'on ne comprend qu'en ayant lu, enfin moi j'ai pas lu tout le Veda, mais j'ai lu des gens qui avaient lu tout le Veda, voilà, qui l'avaient travaillé, on ne comprend ces poèmes que parce qu'ailleurs on nous parle d'Indra, ailleurs on nous parle d'un dragon qui bloque, etc. Alors tout à coup les concordances se font et on se dit, ah oui, il y a eu un vieux mythe que tout le monde connaissait, donc le poète il n'a qu'à broder sur ce mythe parce que son auditoire le connaît. Nous on l'a pas le mythe, on a des fragments de mythologie au détour de poèmes, voilà. Et il a fallu donc reconstituer toute la mythologie du Veda pour nous, et même pour les hindous de l'époque récente. Donc ça a été tout le travail scientifique sur les textes du Veda. Himna Soma. Alors le Soma, c'est donc cette boisson hallucinogène, si je puis dire. Enfin, quand je dis hallucinogène, pensez pas au LSD, on est dans un cadre qui est religieux, rituel, et on dit... qui boit le soma sans initiation meurt. Qui boit le soma en étant initié et autorisé a des visions. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas je fais un petit voyage, je m'envoie dans les étoiles, c'est pas ça du tout. Et boire le soma, d'abord c'est très dangereux, ça reste toujours très dangereux. Et il semble que d'ailleurs cette boisson était effectivement très dangereuse. Et puis, c'est faire une expérience initiatique qui est encadrée par le rituel. Donc, il y avait des rites d'ingestion du soma. Et en même temps, les poètes font du soma une divinité. C'est pour ça que le traducteur a mis une majuscule à soma. Et on le célèbre, ce breuvage je dirais pas l'incarnation, un breuvage n'est pas une incarnation, comme la manifestation d'une divinité qui serait le dieu Soma. Alors, il faudrait dire, si on avait le temps, mais justement c'est juste une introduction, qu'on a tout un complexe des boissons sacrées et intoxicantes et qui donnent des visions, entre autres chez les Indo-Européens, mais pas seulement, dans les chamanismes anciens aussi. Mais là, on est plus dans un contexte d'origine indo-européenne. On a ça chez les Germains, on a ça chez les Celtes, on a ça dans différentes cultures d'origine indo-européenne. Donc, on n'est pas très étonné, même si ça peut paraître quand même surprenant. Donc, voici ce que dit le poète. J'ai goûté en connaisseur. Alors, en connaisseur, c'est pas comme quelqu'un qui goûte un vin en disant, voilà, c'est en connaisseur, c'est parce que j'ai la connaissance, j'ai le Veda, donc j'y ai droit. J'ai goûté en connaisseur le suave élixir, le complaisant, le grand libérateur, oui, parce qu'il libère la conscience pour qu'elle puisse voir. Celui que tous, Dieu et mortel, recherchent en l'appelant le miel. Dieu est mortel. Alors, les mortels qui font les rites ou qui veulent avoir des visions, ils ont la possibilité d'ingérer le soma à certaines conditions et ça resterait dangereux pour eux. Et puis les dieux, c'est leur boisson quotidienne. Un peu comme l'ambroisie chez les Grecs, dans le panthéon grec. Les dieux grecs, ils boivent un vin particulier, qui est un vin du paradis, qui s'appelle l'ambroisie. Et les demi-dieux, comme Achille, quand il meurt, ou bien Hercule, enfin Héraclès, après tous ses travaux, ont droit à boire l'ambroisie. Bon, ben là, c'est pareil. Les dieux, en particulier Indra, est souvent présenté comme étant ivre du soma. Voilà. Parce que c'est un dieu violent, c'est un dieu qui met du désordre. Enfin, il crée le monde, mais il met aussi du désordre dans le monde. Donc, on le représente comme ivre de soma. Alors, voilà ce que disent les officiants, les poètes et officiants. Nous avons bu le soma, nous sommes devenus immortels. Arrivés à la lumière, nous avons trouvé les dieux. Donc voilà, pendant un temps, ils goûtent la condition divine. Que peut nous faire à présent l'impiété ou la malice du mortel, ô immortel ? Ô immortel, ben c'est à Dieu auquel il s'adresse. Ces breuvages glorieux sont mes sauveurs. Ils sanglent mes membres comme les courroies du char. Enflamme-moi comme le feu qui naît de la friction. Illumine-nous. Fais-nous plus fortunés. Ô soma roi, prolonge pour nous le temps à vivre comme le soleil prolonge les journées printanières. Voilà, donc un petit, tout petit écho de la poésie védique, qui est une très, très belle poésie, encore une fois. Alors maintenant, les Upanishads. Alors, je ne suis pas responsable des noms sanscrits, hein, c'est comme ça. Enfin, vous les avez par écrit, donc voilà, c'est un moindre mal. Donc, on a une Upanishad ancienne. J'ai dit que ça commençait le mouvement de questionnement par rapport à la légitimité du rite, commencé vers le 8e siècle avant notre ère. Alors, la Brihadaranyaka Upanishad, elle date de cette époque-là. Et déjà, elle exprime quelque chose de nouveau. Regardez, mais dans une langue qui est encore une langue un peu mythologique, enfin très poétique et un peu mythologique. En vérité, cet Atman, donc l'Atman c'est le soi, l'âme si vous voulez, enfin, mais employons plutôt le mot le soi, c'est-à-dire cette dimension permanente dans l'être humain. L'être en soi. En vérité, cet Atman est le souverain de tous les êtres, le roi de tous les êtres. Donc on le célèbre comme la réalité qui est la réalité centrale. Comme tous les raies d'une roue sont emboîtés à la fois dans le moyeu et dans la jante, de même sont emboîtés dans l'Atman tous les êtres, tous les dieux, tous les mondes, tous les souffles, tous les individus. C'est une manière de dire que c'est la grande découverte. C'est à partir de l'Atman que tout le reste peut se comprendre. Avec cette métaphore du char, qui est bien présente dans cette tradition indienne, qu'on retrouve en Grèce d'ailleurs, hein, entre autres dans le Timée de Platon. Donc ça court en Perse aussi, et il y a quelque chose là qui est... On ne sait pas quelles sont les influences, mais c'est présent. Donc, l'Atman, c'est la réalité centrale, c'est celle, on pourrait dire dans un langage moderne, donc comme je disais, qui permet de comprendre tout le reste. C'est le Brahman, sans rien avant, sans rien après, sans rien au-dedans, sans rien au-dehors. C'est l'Atman, le Brahman, qui est source de toute perception. Voilà. Donc, Atman, c'est la même chose que l'absolu, le Brahman, et c'est, on pourrait dire, le centre du monde. Bon, on est encore dans un vocabulaire qui est très imagé, oui, un peu mythologique. Vous voyez la Chandogya Upanishad, ça va être différent. Là, on est dans un enseignement et donc on est dans un dialogue. Alors, on a des personnages. Alors, est-ce que ces personnages ont vraiment vécu ou pas ? Pour les hindous, c'est une évidence qu'ils ont vécu. Ils ont une fonction qui est un peu celle des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, Udalaka Runi, son fils, qui s'appelle Shvetaketu, ils ont vécu, c'est une évidence. Pour la science moderne, qu'elle soit occidentale ou indienne, parce qu'il y a beaucoup d'Indiens professeurs d'université qui font de la critique textuelle, pendant tout le XXe siècle, en gros, enfin, disons les deux tiers du XXe siècle, ça paraissait une évidence que ces personnages étaient des héros mythologiques, un peu comme Hector, Achille, etc. Et puis aujourd'hui, on s'est rendu compte, les recherches s'affinant, qu'il est probable que ces personnages aient existé, au moins certains d'entre eux. Parce que cet Udalaka Runi, là, qui est un maître spirituel, il apparaît dans d'autres Upanishads, puis il apparaît dans d'autres traditions qu'on n'avait pas. Et maintenant, on sait un certain nombre de choses sur lui. Donc, ça serait très différent de l'époque védique, où les voyants sont des personnages alors vraiment mythiques. Ici, on aurait des personnages historiques, qui seraient au fond des maîtres d'école spirituelle ou philosophique, à la mode grecque, hein, tout à fait. Donc, on a un père et un fils. Est-ce que c'est vraiment biologiquement, génétiquement, un père et un fils, ou est-ce qu'il s'agit d'un père spirituel et d'un fils spirituel ? On n'en sait rien, peu importe. Et on va avoir un dialogue qui va culminer en un morceau de phrase que j'avais mis dans mon PowerPoint et que j'ai oublié de commenter. Alors ça tombe bien. Regardez tout à fait à la fin de l'extrait, ou à la fin de chacune des deux paragraphes. « Toi aussi, tu es cela ». Shvetaketu. Shvetaketu, c'est le nom du fils. Alors, je l'avais mis dans mon PowerPoint et je n'ai pas traduit. Tat, vam, assi. Assi, c'est le verbe être. C'est la deuxième personne du verbe être. Tu es. Tat, c'est un pronom démonstratif neutre. Tvam, toi. Toi, enfin, cela, toi, tu l'es. Donc, en fait, le père veut montrer à son fils quelle est sa véritable identité. Et il va le faire à travers une série de paraboles dont je vous donne deux ici, parce que l'ensemble du texte, ça serait trop long. Donc Udalaka Runi s'adresse à son fils et lui dit « Apporte-moi une figue. La voici, Seigneur. Ouvre-la. La voici ouverte, Seigneur. Qui vois-tu ? Des sortes de petits pépins. Prends-en un et partage-le. Voici qui est fait, qui vois-tu ? Rien du tout, Seigneur. » Alors il lui expliqua, « Il y a là cette essence subtile et tu ne la vois pas. C'est par elle que l'arbre, si grand qu'il soit, se dresse. Aie confiance, l'univers tout entier s'identifie à cette essence subtile qui n'est autre que l'Atman. Et toi aussi, tu es cela, Shvetaketu. » Voilà, donc, il y a d'abord un temps de parabole à partir d'un élément matériel, la figue, qui est très facile à comprendre. Et puis ensuite, il y a un enseignement qui est donné à partir de là. Et cet enseignement est bien sur cette essence subtile qui à la fois est incarnée dans l'individu, Shvetaketu, et en même temps qui est cosmique. Et ce qui est important, c'est que le fils, Shvetaketu, comprenne que dans son identité, dans son identité profonde, il est cela. Tatvam asi, tu es cela. Et ce morceau de phrase, cette petite phrase, va devenir ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire un moyen de méditation. En répétant cela, on intègre cet enseignement sur l'identité de l'Atman et du Brahman. Quelque chose en moi est permanent, c'est de l'être, et c'est identique à l'absolu. Autre exemple, je vous donne un deuxième, tout à fait naïf, mais peu importe, quoique pas si naïf que ça. Seigneur, instruisez-moi davantage. Alors bon, ça c'est très pédagogique, hein, c'est faire l'âne pour avoir du son. Hein. Ah oui, mais je voudrais, dis-moi plus. Donc on a comme ça 10 fois dans le texte complet. Seigneur, instruisez-moi davantage, demanda-t-il à son père. Celui-ci accepta. Voici du sel, jette-le dans cette eau et reviens me voir demain matin. Je fais ta kétou fit ainsi, et le lendemain son père lui demanda. Ce sel qu'hier tu jetas dans l'eau, rends-le-moi. Il le chercha et ne le trouva point car il était entièrement dissous. Bois de l'eau prise à la surface, comment est-elle ? Salée. Bois-en encore prise à mi-profondeur, comment est-elle ? Salée. Bois-en encore et reviens près de moi. C'est toujours la même chose, dit Shveta Ketu. Et son père lui expliqua, ainsi mon cher, tu ne vois pas l'être. Il est là cependant. Il est cette essence subtile. L'univers tout entier s'identifie à cette essence subtile qui n'est autre que l'Atman. Et toi aussi, tu es cela, Tatvam Asi, Shveta Ketu. Donc à chaque fois, ça se termine par le même refrain, si je puis dire. Et à chaque fois, il y a une image différente qui peut être... qui présente les choses, en fait, quand on analyse. J'ai dit c'est naïf, d'une certaine manière. Mais en même temps, quand on prend chaque exemple et puis qu'on le détaille... On s'aperçoit que à chaque fois, ça donne un point de vue particulier. Ici, je dirais, j'aime beaucoup celui-là, parce que il donne quelque chose sur le plan sensoriel, sensible, disons, et qui est très sensible dans l'expérience mystique, qui est ce que j'ai appelé le goût de l'être. Je ne sais pas comment dire, mais l'être a un goût. Il donne quelque chose, le sel, Dieu sait que dans la tradition judéo-chrétienne, c'est important aussi, et on dit le sel de la vie. Oui, il y a quelque chose ici de plus que ne donne pas l'image de la figue. L'image de la figue donne quelque chose d'autre, elle est centrée sur le vide. Finalement, quand on a enlevé les pépins, il reste quoi ? Il ne reste rien. Et pourtant, si, il y a quelque chose. Ici, le sel, on le voit plus, c'est sûr, mais il y a son goût. Ça, il y a quelque chose qui demeure. Voilà, donc ce sont de très très belles images dans un langage qui, dans certaines parties, est accessible à tous. Dans d'autres, c'est un langage beaucoup plus technique et qui se raccroche au rite védique pour les repenser de l'intérieur. Et ça, si on ne connaît pas la tradition védique, c'est vraiment compliqué. Donc, je vous ai donné quelque chose qui puisse vous... tout de suite, vous donner une approche. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris des extraits de textes qui sont consacrés des textes de la Bhakti, donc des textes dévotionnels, qui sont consacrés qui émanent soit de milieux vishnouites, donc qui sont consacrés au dieu Vishnu, soit qui émanent de milieux shivaïtes. Alors, je n'ai pas eu le temps de beaucoup détailler ça dans mon exposé précédent, donc ça va compléter. On a un grand dieu Vishnu, qui existe déjà dans le Veda, qui est un dieu mineur dans le Veda. Alors la grande question des... Shiva aussi d'ailleurs est un dieu mineur dans le Veda. Il n'a pas beaucoup de... C'est-à-dire qu'on ne leur a pas consacré beaucoup d'hymnes. Et donc une question technique d'historien des religions, c'est comment ça se fait que ces deux dieux qui ont une place mineure dans le Veda fassent une carrière de grand dieu à l'époque historique. Bon, alors pour ça, il y a plusieurs réponses, recherches qui sont en cours, etc. Je passe là-dessus. Et donc, à partir du 3e siècle avant notre ère, se développent deux grands monothéismes, enfin, mettez monothéisme entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas forcément la vision du monothéisme chrétien. On pourrait dire, si on fait savant, on dirait énothéisme, de énos, qui veut dire en grec un, mais c'est un parmi d'autres, c'est un au début d'une série, quand on dit 1, 2, 3, 4, 5, on dit, pour un, on dit eis, énos. Bon. Et quand on veut dire que c'est le seul, qu'il n'y en a pas d'autre, on dit monos. Bon. Donc monothéisme fait bien référence à une conception du divin dans laquelle il y a un seul dieu. Alors, on devrait dire pour l'hindouisme, c'est une juxtaposition d'énothéisme, H-E-N-O-théisme. C'est-à-dire que pour moi qui suis vishnouite, Vishnu est mon Dieu. Mais j'ai conscience qu'il y a d'autres incarnations de la divinité. Mon voisin, lui, est shivaïte. Et même, ça peut se décliner, là je parle de ces deux grands dieux pour simplifier, mais ça peut se décliner avec d'autres formes. Par exemple, il y a des gens qui cultiveront une autre divinité, je pense, bon, il y a Ganesh, bien sûr, celui-là, il est très connu, c'est une divinité très populaire. Je pense à un autre qui s'appelle Kubera, et qui est le dieu des marchands, des commerçants. Et ce Kubera, ses représentations, ses images, ont voyagé sur la route de la soie, tout au long des routes de la soie. Je vais parler tout à l'heure des rencontres, je vais commencer par ça, très vite. Bon, voilà. Donc, on a des dévotions envers des figures particulières qui, pour certaines, sont tellement importantes qu'elles représentent, pour le croyant, enfin, qu'elle est son Dieu unique. Mais il sait qu'à côté, il y a d'autres divinités. Donc, on va appeler ça énothéisme. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, on a Vishnu qui va faire une carrière de grand dieu à partir d'un texte qui s'appelle la Bhagavad Gita. Alors, cette Bhagavad Gita, c'est un morceau de la grande épopée, du grand récit du Mahabharata. Je dis rapidement le contexte. Il est toujours question de l'ordre du monde. Et aussi des âges du monde. Le monde est en train de passer d'un âge à un autre, de l'âge d'or à un autre âge. Et c'est des convulsions énormes. Et ces convulsions vont s'exprimer dans le Mahabharata par une guerre, qui est une guerre fratricide, entre clans apparentés. Et donc les guerriers, à un certain moment, sont les uns en face des autres. Il y a juste un no man's land entre deux. Et parmi les guerriers d'un camp, il y a Krishna, qui est un guerrier très valeureux et qui a une armée à lui. Et il a dit à ses cousins, « Moi, je me mets d'un côté ou de l'autre. Alors, il y a ceux qui me choisiront moi tout seul et il y a ceux qui choisiront mon armée. » Alors, une partie de ses cousins le choisissent, lui, tout seul. Évidemment, c'est ceux qui sont les bons dans l'histoire, enfin, les meilleurs dans l'histoire. Et les autres choisissent l'armée de Krishna. Donc, on a Krishna qui va servir de cocher à l'un de ses cousins, le guerrier Arjuna. Alors, attention, un cocher, ce n'est pas un palefrenier. Hein. Un cocher, c'est un noble, un aristocrate, qui a une connaissance particulière de la chevalerie, on va dire, et de lui, de son habileté, de sa manière de conduire le char, tout ça, après, c'est des symboliques qu'on retrouve dans les textes spirituels, va dépendre la vie de l'archer qui est debout dans la caisse du char et qui va devoir lancer les flèches. Donc on a cet attelage qui est très souvent représenté dans les traditions de l'Inde, avec Krishna, qui est qui est le cocher debout, et derrière, dans la caisse du char, on a Arjuna. Cet Arjuna, c'est un très valeureux guerrier, demi-dieu, il est le fils d'un dieu et d'une mortelle, il a toutes les qualités, il est beau, il est courageux, il est tout ce qu'on voudra, il a un arc magique, et pourtant, il va s'asseoir dans la poussière et pleurer. Et c'est le début de la Bhagavad Gita. Et là, Krishna va lui délivrer un enseignement. Il va lui délivrer un enseignement. Si vous lisez la Bhagavad Gita, et j'espère que vous la lirez un jour prochain ou plus tard, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez rien comprendre au conseil que Krishna donne à Arjuna. Et parce qu'il lui dit, fais ton devoir de guerrier. Il ne lui dit pas du tout, mais tu as raison de te mettre dans le fond de ton... dans la caisse de ton char ou assis par terre dans la poussière à pleurer, t'as raison, parce que c'est terrible de tuer ses frères, ses cousins, son maître spirituel qui sont de l'autre côté. Non, non, il lui dit pas du tout ça. Il lui dit, lève-toi et fais ton devoir de guerrier. Sva dharma. Dharma, hein? Sva, ça veut dire à soi. À soi. Fais ta part du dharma. Autrement dit, dans cette société, on peut trouver ça scandaleux, mais bon, les guerriers, ils ont quelque chose à faire, c'est leur caste, ils ont à protéger le territoire et à faire la guerre. Si les guerriers ne font pas la guerre, comme il y a quelque chose de très pragmatique dans les traditions de l'Inde, si les guerriers ne font pas la guerre, ben c'est d'autres qui les feront, qui la feront. Et si c'est les paysans et les artisans qui font la guerre, ben c'est le chaos. Et si c'est les officiants qui font la guerre, c'est un chaos encore pire. Donc, le guerrier doit faire la guerre. Il a été mis au monde pour ça. Mais, là où c'est nouveau, c'est que Krishna veut faire comprendre à Arjuna qu'il n'est qu'un instrument entre les mains de la divinité. Et que si cette guerre a lieu... C'est parce que le monde passe d'un âge à un autre, dans un temps qui est conçu comme cyclique, et que ça, personne n'y peut rien. La seule chose qu'il puisse faire, Arjuna, c'est de faire son devoir sans haine et sans fascination pour la violence. C'est-à-dire sans y mettre de son ego à lui, de ses affects à lui. D'où l'extrait que je vous ai choisi, le premier. Ne te préoccupe que de l'acte, jamais de ses fruits. N'agis pas en vue de fruits de l'acte, ne te laisse pas non plus séduire par l'inaction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, d'abord, bon, ça, c'est facile à comprendre, c'est pas forcément facile à faire, mais c'est facile à comprendre, c'est la doctrine de l'action désintéressée, l'action dans laquelle on ne met pas d'ego. Et quand Krishna dit à Arjuna, ne te laisse pas non plus séduire par l'inaction, il prend position contre des mouvements de renonçants qui disent, nous, cette société ne nous convient pas, elle est violente, elle est ceci, cela, etc. Donc on s'en va. Et Krishna dit à Arjuna, c'est pas une solution pour toi. Tu es dans le monde, tu dois faire ce que tu as à faire, donc ne sois pas séduit par les doctrines de l'inaction. N'agis qu'en disciple fidèle du yoga. Alors là, attention, c'est pas le sens du mot yoga, les postures, se mettre sur la tête, etc. Le sens ancien du mot yoga, c'est voie d'évolution. C'est chemin, réalisation de soi. Donc, n'agis qu'en disciple fidèle du yoga, en dépouillant tout attachement. Odhanamjaya, ça c'est un des titres princiers d'Arjuna, laissons ça de côté. En restant indifférent au succès ou à l'insuccès. Car l'acte au Dhananjaya est inférieur infiniment au détachement intérieur. Vous voyez l'influence des Upanishads, de cette réforme, et comment après, des enseignements nouveaux qui sont des enseignements où il y a un grand Dieu, se réfèrent au détachement intérieur. C'est dans la pensée qu'il faut chercher le refuge. Ils sont à plaindre ceux qui ont le fruit de l'action pour mobile. Ils sont à plaindre ceux qui réalisent quelque chose dans un sens intéressé. Pour qui réalise le détachement intérieur, il n'est plus ici-bas ni bien ni mal, ça veut dire il sera sauvé. Efforce-toi donc au yoga, c'est-à-dire à cette voie d'évolution. Le yoga est dans les actes la perfection, car les sages qui ont réalisé le détachement intérieur, esquivant le fruit qui naît des actes, libérés des liens de la renaissance, vont au séjour des bienheureux, c'est-à-dire au séjour de Vishnu, au paradis de Vishnu. Voilà, donc ça c'est Krishna qui donne un enseignement, et dans ce premier temps, Arjuna pense que Krishna est son cousin. Mais il se dit, enfin c'est plus, il se dit ça de manière moins familière que ça, mais il se dit, tiens, c'est bizarre, Krishna, je ne pensais pas qu'il était aussi sage que ça, formidable, bon. Donc il commence à se laisser un peu convaincre, mais pas tant que ça. Et au fil de la Bhagavad Gita, moi j'avais un prof dans mes études indiennes qui disait, il faut que vous envisagiez très visuellement la Bhagavad Gita. C'est toujours un peu une vision, comme était le Veda, et comme un fondu enchaîné au cinéma. C'est-à-dire que peu à peu, à travers Krishna, Arjuna va découvrir Vishnu, le grand Dieu, qui en fait est descendu sous la forme vivante de Krishna. On appelle ça, bon, on peut dire c'est incarné, mais je ne voudrais pas, avec l'incarnation chrétienne, c'est assez, donc je ne voudrais pas faire trop de mélange. En sanskrit, vous connaissez le mot, donc je vais le dire, c'est un avatar, avatara. En sanskrit, ça veut dire une descente. Ça désigne la descente d'un dieu qui vient pour sauver. Voilà. Ce qui explique que plus tard, dans la Bhagavad Gita, Krishna, en fait, donne sa voix à Vishnu, au dieu. Le bienheureux Seigneur dit... Nombreuses sont les existences que j'ai traversées, ô Arjuna, et nombreuses aussi les tiennes. Moi, je les connais toutes, c'est-à-dire le Dieu est omniscient, ô héros, mais non pas toi. Bon, quand le Dieu dit « nombreuses sont les existences que j'ai traversées », c'est une manière d'exprimer ce qu'est le temps cyclique. Ça ne veut pas dire que le Dieu naît et meurt, mais c'est ce mouvement cosmique, voilà, que le Dieu accompagne. Encore que je sois, alors j'ai respecté la traduction du traducteur, moi j'aime pas traduire par âme, encore que je sois l'Atman sans commencement, impérissable, encore que je sois le Seigneur des êtres, je nais par mon pouvoir en vertu de ma nature propre, c'est-à-dire je descends dans un être vivant. Qui peut dire je nais par mon pouvoir en vertu de ma nature propre? Certainement pas vous, pas moi. Donc seul... au moins dans un monde où il n'y a pas de GPA et de choses comme ça, seul le Dieu peut dire ça. Je nais en vertu de ma nature propre. Attendez, j'ai perdu mon... Je nais par mon pouvoir, c'est ça. Par mon pouvoir, en vertu de ma nature propre. Le Dieu se fait naître lui-même, sous la forme d'un avatara. Voyez la suite, toutes les fois que l'ordre chancelle, que le désordre à dharma, c'est le contraire de dharma, se dresse, je me produis moi-même, d'âge en âge, c'est-à-dire à travers les âges du monde, je nais pour la protection des bons et la perte des méchants, pour le triomphe de l'ordre. Voilà. Donc on a la dévotion envers un grand dieu, qui est une des deux grandes composantes de l'hindouisme, le vishnouisme, et qui récupère les valeurs anciennes du Veda, qui récupère toute la dimension intériorisante des Upanishads, et qui s'épanouit en une forme de dévotion envers un grand Dieu, j'ai terminé par là ensuite, qui dit ceci, « Je suis l'origine de tout, de moi tout procède, c'est dans cette conviction que s'attachent à moi les sages à la pensée profonde, l'esprit en moi, toute leur vie suspendue en moi, s'éclairant les uns les autres et proclamant sans cesse mes louanges, ils sont comblés, ils débordent de joie. À ces hommes constamment recueillis, qui s'attachent à moi avec délice, je communique la force d'esprit par laquelle ils s'élèvent à moi. Par eux, par grâce, me manifestant dans ma vraie nature, je dissipe les ténèbres de l'ignorance à l'éclatante lumière de la vérité. » Voilà. Donc on est dans le chapitre 10 de la Bhagavad Gita. Là, on a avancé, on est à plus que la moitié de cette partie du Mahabharata. Et là, Vishnu se révèle à Arjuna dans sa véritable dimension de grand Dieu qui offre une grâce, qui offre la grâce. Voilà. Si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Après le déjeuner, donc on reprend à 2h moins le quart, hein, c'est ça, 2h moins le quart. Donc je vous proposerai d'abord de jeter un petit coup d'œil à la suite des textes que je vous ai donnés. Et ça sera rapide, parce que ce sont des textes qui sont plus faciles à comprendre, enfin je crois. Ensuite, on aura un temps de questions. J'aimerais bien entendre comment vous sentez les choses. Enfin, pas de questions, mais d'échanges. Oui, ça peut être des questions aussi. Et puis après, je vous ferai une troisième partie sur la rencontre, de religion, un peu hindouisme-islam, mais surtout hindouisme-christianisme, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Voilà.
Comme d'habitude, le libraire, donc Monsieur Tétier, est là et il propose un certain nombre de livres. Alors, des livres de Madame Tardan-Mascelier sur l'hindouisme, un milliard d'hindous qui est ici. Il y a une petite spiritualité du yoga également qu'on vous propose. Il y a les maîtres des Upanishads qui sont donc commentés par Madame Tardan-Mascelier. Et enfin, un texte de la Bhagavad Gita qui est là, que vous pouvez avoir. Il y a également d'autres livres que Jean-Denis vous présentera à l'extérieur. Donc il est là pendant toute la pause du déjeuner. Voilà, donc on reprend à